Aujourd'hui, à rencontre, un romancier qui est aussi critique de cinéma, Jean-Pierre Morel.
Jean-Pierre Morel, vous êtes critique cinématographique par profession et vous écrivez des romans. Comment ces deux activités se concilient-elles ?
Elles sont très différentes, heureusement. J'ai toujours eu peur que l'écriture journalistique abîme le style de l'écrivain, mais j'arrive, ce qui est nécessaire, à les séparer complètement. Ce qui entraîne parfois certaines difficultés. Quand je suis, par exemple, plongé dans l'écriture d'un roman, il m'est très pénible de faire mon travail, le travail qui me fait vivre, c'est-à-dire l'écriture journalistique.
Vous êtes obligé d'aller voir beaucoup de films, etc. Et
je vais voir
distrait.
Beaucoup de films, oui. La concentration est très importante quand on écrit un livre. Et puis je l'écris assez vite, du moins dans un premier jet, et j'y pense tout le temps. Le matin, le soir, à midi, je mange très vite, j'ai deux machines à écrire, j'en ai acheté une deuxième pour écrire dans mon bureau pendant la pause de midi à 2h, en me privant parfois même de manger quand je suis entraîné. Voilà, l'écriture est vraiment très possessive.
Vous êtes ce que les Américains appelleraient un workaholic, un alcoolique du travail.
Voilà, oui. Une drogue.
Une drogue.
Quand j'y suis pris, c'est une drogue.
Mmh. Vous avez fait des études de philosophie.
De philosophie, oui. Philosophie et lettres. Et puis j'ai laissé tomber parce que enseigner n'était pas exactement ma vocation. J'ai besoin de trop de liberté et d'indépendance. Celle que me donne le journalisme, c'est vrai, et puis la création littéraire, plus encore.
Vous avez écrit un recueil de nouvelles,
oui.
Le Diable sur la neige, un roman, Le haut vol. Vous préparez un troisième roman dont on ne parlera pas, puisqu'il doit, j'imagine,
rester un peu
votre secret.
Oui, voilà.
Il y a une chose qui m'a frappé dans les deux premiers ouvrages, c'est le fait que vous parliez beaucoup de la beauté. Et vous dites, par exemple, dans Le Diable sur la neige, vous avez cette phrase, enfin, qui est attribuée à quelqu'un d'autre, mais quand même, « La beauté sauvera le monde ».
Phrase de Dostoïevski.
Oui.
Et la beauté, d'abord, c'est l'obsession première de l'artiste, c'est évident. Quand il crée, ce qu'il veut créer doit être beau ou parfait. Alors, j'ai pris comme sujet de mes deux premiers livres, au fond, l'obsession même de l'artiste, la beauté. Maintenant, si tous les chemins mènent à Dieu, et je crois que tous les chemins y mènent, la beauté en est un qui intéresse particulièrement l'artiste, parce qu'elle est le lieu de toutes les contradictions.
Oui, mais la beauté, c'est peut-être ça, mais une grande part de l'art actuel ignore délibérément la beauté et veut même aller contre la beauté. On parle actuellement, je voyais récemment dans une revue que je ne nommerai pas, mais on parlait d'art dégoûtant. On a parlé plutôt de bad art, n'est-ce pas? Il y a chez certains artistes actuellement cette volonté de travailler non pas dans le beau, mais dans le laid. Comment vous réagissez à ça?
Je dirais que j'y vois. C'est terrible. Moi, je réagis très mal, c'est vrai. Mais je le comprends dans la mesure où j'y vois une sorte d'inscription en creux de l'absence de Dieu. Un artiste n'a pas, je cherche comment dire cette chose qui est difficile, un artiste n'a pas à convertir, si vous voulez. Il n'a pas à parler directement de Dieu. Ce n'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est d'inscrire dans une matière le drame humain. Et on peut dire aujourd'hui qu'il est inscrit plus que jamais, ça c'est vrai. Ce qui est inscrit, c'est l'absence de Dieu, c'est-à-dire au fond, la laideur, qu'est-ce que c'est ? C'est la plongée dans un univers d'où Dieu est absent. Nous vivons une époque qui, en général, a éliminé Dieu, qui a éliminé la force créatrice, qui est le signe de la présence de Dieu, finalement, cette force créatrice, ce rehaussement dont je parlais tout à l'heure. Nous l'avons oublié. Cela se voit même dans le phénomène tragique de la dénatalité. Tout l'Occident est en train de vieillir et de disparaître. Bon, nous avons donc oublié Dieu, oublié ce qui signifie oublier la force créatrice, et nous plongeons dans une sorte de désespoir, et le désespoir est laid. Le désespoir est toujours laid. Mais malgré tout, c'est un signe tragique, une inscription en creux d'une soif qui est pervertie, que les médias, que les philosophes du siècle ont pervertie. Pourquoi parle-t-on de Sartre, de Beauvoir, au lieu de parler de gens qui travaillent dans l'ombre discrètement et qui sont eux les vrais porteurs de ce rehaussement de la création? Nous avons oublié notre tâche, une tâche qui nous a été confiée depuis l'origine des temps.
Vous dites on parle d'eux, certains parlent d'eux. Et ce qui m'amène à vous dire, n'est-ce pas, peut-être que la voix des artistes dont vous parliez tout à l'heure est une voix qui n'intéresse que quelques-uns, qui n'intéresse pas la majorité de nos concitoyens. C'est une voix bien particulière, bien définie, et peut-être même la voix d'un groupe qui finalement se retrouve en ghetto.
Oui, je crois que les artistes se sont séparés du public parce qu'ils ont été pris par l'obsession de la forme, ce qui pour moi est très grave. Aujourd'hui, même moi je suis touché par cette obsession de la forme. Je me dis, enfin il faut faire du nouveau, ce n'est plus possible d'écrire comme le 18 ou le 19e siècle a écrit, ce n'est plus possible de peindre, il faut toujours trouver du nouveau. L'artiste est du nouveau, l'artiste est obsédé par cette chose-là et il perd de vue le sens profond de la création. Il recherche des formes nouvelles et il croit, et à mon avis c'est une illusion, du moins dans un certain sens, il croit qu'une forme est créatrice en elle-même, ce qui est faux. Une forme, comme un fond, si l'on veut séparer, si l'on veut adopter la séparation classique, fond et forme sont secs. En eux-mêmes, ils sont secs. Ce qu'il faut, c'est rendre l'œuvre d'art vivante. Et à partir du moment où on la fait battre comme un cœur, forme et fond viennent. C'est secondaire. Seulement, les artistes l'ont oublié.
Est-ce que cet intérêt pour ce que vous appelez la création, l'activité créatrice, est-ce que c'est cela qui justifie aussi l'intérêt que vous avez pour la nature? Car la nature est très présente dans vos œuvres.
La nature est très présente et ça, je crois que c'est à cause de l'Autriche. Je suis autrichien d'origine et je vis mon rapport à la nature de manière assez difficile, je dois dire. Quand je compare par exemple avec la manière dont la vivent les Français. Ce que je veux dire, c'est que l'Autriche est située dans la zone romantique et que le rapport à la nature des Autrichiens est romantique, c'est-à-dire pour moi perverti. Si vous voulez, tous les Autrichiens, et moi-même donc, quand nous nous promenons dans la nature, nous attendons. C'est peut-être la dimension essentielle du rapport à la nature, l'attente. Nous attendons quoi? C'est difficile de le dire. Une rencontre. L'ineffable, pour ne pas avoir peur des mots, l'ineffable terrestre, je parle même pas de l'ineffable d'une rencontre avec Dieu, d'abord l'ineffable terrestre, une rencontre avec l'ineffable. Et au fond, ce que font les Autrichiens, ce que je fais dans la nature, c'est je guette ce qui me lie au monde. Je guette moi-même dans ce qui me lie au monde. Je guette la manière dont j'appartiens au monde. Et ça, c'est chez moi une obsession. Voilà pourquoi la nature, pour moi, est importante. J'ai un rapport difficile avec elle. Je ne m'y sens pas intégré comme un paysan s'y sent intégré. Pourtant, je sens que c'est une chose essentielle. Et ce rapport est très complexe. Et d'ailleurs, il féconde, je pense, l'œuvre romanesque que je suis en train de poursuivre.
Vous êtes intéressé à la nature, mais vous êtes aussi intéressé non pas simplement à la contempler, mais peut-être aussi à la modifier, car votre réflexion est toujours imprégnée d'une pensée scientifique.
Oui, oui, oui. La science est d'abord un intérêt passionné pour moi, et c'est une raison pour laquelle je l'introduis dans mes livres. Mais pas seulement, ça c'est une raison subjective. Je pense que nous avons perdu contact avec la science. Les artistes ont perdu le contact depuis deux siècles. L'encyclopédie de Diderot est au fond le champ du cygne d'une humanité qui était à la fois artiste et scientifique. La Renaissance, par exemple. Le dernier grand génie de l'humanité, c'est Goethe, qui était à la fois artiste, poète, écrivain, romancier et savant, très grand savant. Depuis, rien. Il y a une coupure totale entre la science et l'art. Et c'est grave.
Vous allez plus loin que ça dans l'ouvrage Le Haut Vol. Il y a un de vos personnages qui déplore le fait qu'il y ait coupure entre la science, l'art et la religion. Et il souhaite qu'il y ait réconciliation de ces trois réalités.
Réconciliation, et je dirais que la science nous désigne du doigt cette réconciliation. Parce que jusqu'à maintenant, la science, c'est-à-dire la chose dont on fait le plus grand cas actuellement, puisqu'on veut que tout soit scientifique, même les sciences humaines, la science n'a jamais accepté ce qu'on appelle les causes finales, c'est-à-dire une cause qui non pas précède l'effet, mais le suit. Je prends un exemple très simple. Quand vous offrez un cadeau à un enfant, vous l'offrez pourquoi ? Pour faire naître la joie dans le cœur de cet enfant. Donc, le cadeau a pour cause la joie. C'est postérieur, la joie n'est pas encore là. C'est donc le but, la joie anticipée. La science n'a jamais admis ces causes-là. Pour elle, toute cause doit précéder l'effet. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, la science, par la génétique et la physique nucléaire, la physique des quantas, découvre qu'il peut y avoir, dans l'explication du monde, dans l'explication de la matière, des causes finales. C'est-à-dire que le monde peut avoir été créé pour l'homme. Il y a comme un axe directeur à l'univers, et cet axe vise l'apparition de l'homme. C'est une immense question pour la science, c'est une révolution complète. Je dirais que c'est un changement de paradigme, sans vouloir être très snob. C'est un changement dont on ne perçoit pas encore tous les effets. Mais la science même réintroduit les causes finales, c'est-à-dire le but, la fin.
Comment expliquez-vous que dans votre roman, Le Haut Vol, le personnage qui précisément cherche à réconcilier tout ça, le personnage qui précisément voit Dieu dans la nature, et etc., se suicide.
C'est une chose qu'au départ je ne m'expliquais pas. Le suicide s'est imposé. Je le lui reproche aujourd'hui. Je le lui reproche. C'est évidemment quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. C'est un homme qui, au fond, est perdu dans son siècle. Il a deviné quelque chose. Il est la victime essentielle de ce rapport à la nature qui est conflictuel. Il n'a pas saisi la véritable essence de ce rapport à la nature, qui doit être un rapport de louange. Un rapport de louange, c'est-à-dire le rapport d'une créature à son créateur. Il a essayé de voir la main de Dieu dans la nature, mais la main de Dieu, son siècle, la cache constamment. Il a essayé de voir la main de Dieu par le biais de la science, puisque c'est un homme qui s'intéresse à la science, et à chaque fois, il se heurte à un mur, et peut-être parce que c'est un intellectuel, au fond. Et à cause de cela, il se suicide, parce que il y a des choses qui se disent et des choses qui se vivent. Et lui cherche à les dire, c'est son tort. Vous savez, quand un metteur en scène ou un producteur de cinéma veut tester le talent d'une actrice, il la fait marcher, il lui fait ouvrir une porte et il lui demande de dire à son partenaire « je t'aime ». Il faudrait qu'il lui demande encore une autre chose, de dire « je crois en Dieu ». Ce sont les choses les plus difficiles à dire, parce qu'en fait, elles ne se disent pas, elles se vivent. Alors, je ne dis pas dans mes romans « je crois en Dieu ». Je ne le fais jamais dire à mes personnages. Peut-être que j'arriverai à faire dire à mes personnages une phrase aussi simple que celle-ci « je crois en Dieu » quand je serai très vieux, si Dieu me prête vie. Parce que j'aurai toute une vie derrière qui me permettra de le dire.
Mais,
en le vivant.
Oui. Mais ce personnage que je trouve pour ma part attachant est un personnage sans convoitise, alors que tous les autres personnages sont des personnages qui sont habités par des convoitises, sont des personnages de besoins qui veulent satisfaire leurs besoins, qui sont des personnages possessifs. Alors comment se fait-il que lui, sans convoitise, pauvre, finalement, aboutisse à cet échec, alors que les autres semblent menés par une convoitise qui précisément leur permet de faire les choses, même si par la suite il y a un autre échec.
Mais quelles choses font-ils, ceux qui sont animés de cette convoitise? Ils font des choses, mais des choses qui les enfoncent. L'un détruit le tableau, l'autre n'est pas sorti de sa passion destructrice, une troisième est abandonnée au bord d'on ne sait quoi, celui qui se suicide est sans convoitise, mais il possède peut-être la convoitise suprême. L'orgueil suprême, c'est d'avoir voulu percer tout seul, dans sa solitude, le secret de la nature, c'est-à-dire le secret de Dieu. Il a peut-être voulu convoiter, non pas telle beauté terrestre, tel tableau, telle femme, tel homme, il a tout simplement convoité Dieu, directement, et c'est son grand tort. Il aurait dû passer par l'homme, par l'amour humain, par le Christ, donc, qui est l'homme-Dieu par excellence, sans quoi rien n'a de sens. Et voilà un homme dont vous dites qu'il n'a aucune convoitise, mais il a la suprême convoitise, qui est complètement cachée, que j'ai volontairement cachée, mais qui, me semble, doit se sentir tout de même. Il convoite Dieu directement. C'est l'orgueil suprême. Et voilà pourquoi il se suicide.
Vous venez de parler d'amour, mais vos personnages semblent incapables d'aimer. Aussi bien les parents que les enfants.
Ils sont tous incapables d'aimer, c'est vrai. Et j'espère que je ne suis pas incapable d'aimer, mais je sens cette incapacité d'aimer partout, autour de nous. Et d'ailleurs, quelle est la raison de la situation de notre siècle, de la situation de l'Occident, sinon cette incapacité d'aimer ? Alors, je la sens partout comme une pression très terrible, très dure, effroyable, inquiétante. Et j'ai essayé de l'incarner dans un livre. Parce qu'encore une fois, je ne peux pas, dans l'état actuel de mon développement spirituel, dont je peux très mal parler, donc je ne vous en parlerai pas, mais je ne peux pas dire directement dans un livre le positif de la foi en Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est très secret en moi, que j'exprimerai plus tard. En revanche, ce que je peux dire comme artiste, c'est le drame de notre époque. Et le drame, il est là, dans l'absence d'amour. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression de parler de Dieu à chaque page de ce livre, sans pratiquement jamais le citer. Parce que chaque page de ce livre signifie le drame de l'absence d'amour, de l'incapacité d'aimer. Et j'ai l'impression que c'est un appel, un cri dans chaque page à la venue de l'amour, à la venue de Dieu. C'est ma façon à moi de parler de Dieu dans ce livre.
Il y a un personnage qui tient très peu de place aussi dans ce roman, le haut vol, et je me demande même, j'arrive pas à me rappeler s'il a un nom. C'est le gardien de musée.
Ah oui, je l'aime beaucoup, le gardien de musée.
Le gardien de musée, qui lui précisément semble plus que tout autre, plus que le personnage qui se suicide, dépossédé.
Voilà, tout à fait. Et si vous voulez, le gardien de musée, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est le personnage le plus humble du roman, le plus absent, le plus discret. On le voit deux fois, il doit tenir 3-4 pages, pas plus.
C'est pas comme ça pour tous ceux qui travaillent dans les musées.
Non, c'est vrai. Mais voilà un homme qui a une intériorité, qui a vécu dans le contact des œuvres d'art toute sa vie, et notamment dans le contact des œuvres de Rembrandt, et qui a percé un secret que peut-être certains grands amateurs d'art ou grands critiques d'art n'ont pas percé. Le secret du visage chez Rembrandt, ouais, qui a vu le Christ. Et c'est un homme qui est tellement dépossédé de tout, comme vous dites, que lorsque il essaie de récupérer le tableau volé...
Non, pas pour lui.
Il ne veut pas le récupérer pour lui, mais pour les autres. Et même, je lui fais dire, je n'enverrai personne en prison pour un tableau. Et voilà peut-être la phrase la plus importante du livre. C'est que cet homme, contrairement à celui qui se suicide, a tout compris. C'est l'humanité qui compte pour lui. L'humanité récupérée, sauvée dans le Christ, puisqu'il voit le Christ et le Père dans cette figure de Rembrandt qui ne représente pas à première vue le Christ, qui n'est pas un tableau religieux. Il voit le Père, le visage du Père, et donc le visage du Christ, et le visage de l'humanité souffrante. Et le plus beau tableau qu'il soit, celui qui lui réjouit le cœur tous les matins quand il ouvre son musée, eh bien, il le sacrifiera volontiers pour ne pas mettre quelqu'un en prison. Voilà la phrase clé du livre pour moi.
Ce personnage est fasciné par un portrait, mais vous-même et d'autres de vos personnages semblent fascinés par la figure humaine, par le visage humain. D'où vient cette fascination ?
Parce que le visage humain est la clé de l'univers. Les yeux, la lumière des yeux, donc la lumière intérieure qui passe par les yeux et qui illumine le visage. La vraie beauté du visage est, évidemment, c'est une banalité de le dire, une beauté intérieure. La plus haute expression artistique du visage est l'icône, c'est-à-dire le dernier pas de l'humanité dans sa création artistique vers le visage divin, vers le visage de toute lumière, le visage transfiguré. Et le visage, c'est le lieu d'une transfiguration. Quand un homme, une femme est plongé dans le désespoir et puis que quelque chose ou quelqu'un lui apporte une lueur, c'est dans le visage qu'on voit s'éclairer cette lueur d'espoir. Pour prendre un exemple dans le cinéma, les plus grands cinéastes l'ont bien compris, qui travaillent sur le visage et qui l'éclairent d'une façon ou d'une autre.
Oui, dans le cinéma, on travaille sur le visage. Mais ailleurs, il semblerait que le visage n'existe plus, aussi bien en littérature que dans les arts visuels.
Oui. Ça, c'est un problème difficile, parce que ma passion, c'est les visages. Dans la peinture, par exemple, ce que je préfère, c'est les portraits et autoportraits. C'est le visage. Alors, vous me poserez la question de l'art abstrait, évidemment. C'est une question qui nous entraînerait peut-être très loin. Mais je veux dire, quelque chose peut remplacer le visage. Le visage, c'est la lumière. Et c'est une sorte de pulsation vitale. L'art est vivant. Et tout ce qui peut donner l'impression de quelque chose qui bat, une pulsation, ce que peut donner l'art abstrait, sinon peu importe que ce soit de l'art abstrait ou du figuratif, tout ce qui peut donner l'impression d'une pulsation lumineuse est un visage finalement, ou une absence de visage mais qui appelle le visage. Et si on veut aller plus loin, le visage est le lieu d'une transfiguration. Et ça, c'est le mot-clé dans l'art et dans la foi. La transfiguration. À partir du moment où vous devinez qu'il y a transfiguration, il y a visage, et il y a plus que le visage. Il y a le visage qui s'efface et qui se noie dans la lumière de la transfiguration. Et il n'y a pas, à la limite, besoin, c'est vrai, d'un visage humain, bien dessiné. D'ailleurs, tant de visages dans l'art sont sans aucun intérêt, parce qu'il n'y a pas cette transfiguration. Il peut donc y avoir transfiguration sans visage. Voilà, c'est le mot-clé, la transfiguration.
Est-ce que c'est l'art qui vous fait vivre ?
Non. Non, c'est... Disons que c'est une manière pour moi d'accomplir mon destin d'homme, et ce destin d'homme est de créer. Mais il y a une création qui me paraît tout de même plus importante, c'est la création d'une famille, et d'une famille dans la foi. Ça, c'est le plus important. L'art ne vient qu'en second. On me priverait de création artistique, j'en souffrirais bien sûr, mais il est évident que je ne me suiciderais pas. Je trouverai immédiatement un autre moyen d'exprimer quoi ? Eh bien, cette tâche que m'a confiée le Créateur, qu'il a confiée à tout homme, qu'il a confiée à l'origine des temps, c'est de prendre le relais du Christ et de continuer à transfigurer la création qui en a besoin. Ce n'est pas aller contre la matière. L'objection est classique qu'on fait au catholicisme, à la chrétienté. Vous haïssez la matière, vous haïssez le charnel, vous haïssez le sexuel. Vous êtes dans l'idéalisme. Pas du tout. Notre tâche, au contraire, est extraordinaire. Nous aimons tellement le matériel, le charnel, le sexuel, que nous essayons de le transfigurer, de le rehausser, de le tirer d'un grouillement sans valeur, ni bien ni mal, c'est ça le grouillement originel, nous essayons de le tirer de là pour le rehausser vers la lumière. Nous sommes ceux qui aimons le plus le charnel. Nous sommes les amoureux du charnel pour cette raison. Et l'artiste, ma création est une manière de faire, d'effectuer cette transfiguration, ce rehaussement, mais il y en a tant d'autres. Et la principale, c'est d'aimer, évidemment. C'est d'aimer dans le Christ. Ça, c'est essentiel.
Le mot aimer m'apparaît toujours un mot difficile à prononcer.
Oui, enfin, oui, un mot très qui difficile, me gêne, très exigeant.
Il me semble que c'est un mot qui devrait venir simplement en dernier lieu et qu'on ne devrait pas commencer par lui.
On ne commence pas par lui et il faut tout de même espérer finir par lui. Et c'est très difficile. Le mot aimer, je ne sais pas s'il est écrit dans le livre, je ne me souviens pas. Peut-être.
Oui, oui, oui.
Il est écrit.
Page 141.
Page 141.
Vous voulez qu'on aille vérifier ?
Vous me le reprochez.
Non, c'est pas la page 141, c'est la page 241. Voyez-vous, j'ai un blanc de mémoire, là. Mais ce que vous en dites, c'est terrible. M'aimes-tu ? Je voudrais te le crier et te le murmurer, mais je n'ai sans doute plus le droit d'utiliser ce mot.
C'est le mot le plus simple et donc le plus difficile. Comme tout ce qui est très simple, comme tout ce qui est très exigeant. Mais il faut quand même le prononcer, il faut quand même le dire. Sinon, il faut le dire et le vivre tout ensemble. Si vous le vivez, vous n'avez peut-être pas besoin de le dire, mais si, tout de même, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre peut-être avant de le vivre, parce qu'ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes. Et un mot qui est dit, le verbe est quand même quelque chose de très important, puisque c'est par là que tout a commencé. Le verbe s'est fait chair. Alors, le dire, c'est quand même très important, même si on risque de le dévaluer. Eh bien, il faut quand même avoir le courage de le dire, s'apercevoir qu'il est dévalué, même au moment où je le dis, et se dire tout d'un coup, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu le dis et tu ne le vis pas. Alors, tâche de remplir ce mot, tâche de le remplir. Mais si on ne le dit pas, il y a quand même des chances qu'on l'oublie aussi. Il ne faut pas le dire toujours, mais il faut le dire.
Jean-Pierre Morel, je vous remercie.
Rappelons que Jean-Pierre Morel, qui est critique de cinéma à France Catholique Ecclesia, est surtout l'auteur d'un roman intitulé Le Haut Vol, qui est un roman des ambitions et des déchirements, et d'un ensemble de nouvelles, Le Diable sur la neige, qui a obtenu en 1980 le Grand Prix de la Nouvelle de l'Académie française. Ces deux livres sont parus chez Stock.